Décryptage. Anne Corpet.
Pensez-vous toujours que nous ne sommes qu'un seul peuple ? Vous ne comprenez donc rien ? Interrogeait ce week-end le président ukrainien en s'adressant aux Russes et il ajoutait « Préférez ne plus avoir de gaz, d'électricité, d'eau ou de nourriture plutôt que de continuer à subir la présence russe parce que pour nous, le froid, la faim, l'obscurité et la soif ne sont pas aussi terribles et mortels que votre amitié et fraternité » a expliqué Volodymyr Zelensky avant de conclure « Mais l'histoire remettra tout à sa place. » Et c'est justement d'histoire dont nous allons parler aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie ont pendant de longues décennies cheminé ensemble sous la bannière de l'Union soviétique, mais leurs trajectoires se sont séparées après l'éclatement de l'URSS et les deux peuples se sont ensuite construits deux récits différents du siècle écoulé. Depuis le 24 février dernier, beaucoup de sang a coulé et les images atroces des massacres perpétrés en Ukraine ont brisé le lien entre ces deux peuples que l'on croyait frères. Le fossé entre eux est devenu infranchissable. Décryptage revient aujourd'hui sur la construction de cette tragédie. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Anna Colin-Lebedev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Merci d'être ici avec nous en studio. Et vous avez écrit « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique ». Ça vient de paraître au Seuil. Vous ouvrez ce livre sur une note personnelle. Vous racontez une nuit d'angoisse en pleine guerre dans le Donbass en 2014-2015. Et comme si vous aviez ressenti, écrivez-vous, la force du lien en train d'être détruit. Alors, il faut préciser que vous avez passé votre enfance en Union soviétique et ce lien entre Ukraine et Russie, il vous paraissait a priori impossible à dénouer ?
Ce n'est pas qu'il me paraissait impossible à dénouer, c'est que autant les divergences étaient bien évidemment visibles, les différences étaient là, mais leur conversion en violence, en violence meurtrière, était complètement inenvisageable. Et c'est vrai que voilà, ce moment en 2014, qui était le premier choc pour moi, j'en parle parce que ça permet de faire sentir quelque chose, faire sentir en fait la douleur que représente cette déchirure. Et à ce moment-là, on ne parle pas encore de gouffre ou de séparation radicale, comme ce qu'évoque le président Zelensky dans son discours. On est encore à un moment de déchirure où on pense que ça peut se recoller, mais cette déchirure est extrêmement douloureuse. Et si je le raconte de manière un peu personnelle, c'est parce qu'en fait, voilà, moi, auteur de ce livre, j'ai aussi une situation personnelle particulière. Je suis chercheuse ayant travaillé sur les deux pays, la Russie et l'Ukraine, et c'est à ce titre que je me suis permise d'écrire ce livre. Mais j'ai aussi quelque part un pied dans chacun des deux pays, ayant grandi à Moscou, nourri du récit russe, très imprégné de cette vision, et ayant vécu plusieurs années en Ukraine, et m'étant aussi imprégné de ce qui faisait la différence en fait de ce pays. Et donc chacun d'entre eux était un peu un chez moi. Et cette déchirure, je l'ai ressentie à ce moment-là très personnellement et bien évidemment aujourd'hui encore plus.
Alors, vous écrivez que sous l'URSS, la Russie était le centre et l'Ukraine la périphérie. Est-ce que ce n'est pas cela avant tout le problème pour l'Ukraine d'être considérée encore comme la périphérie de Moscou ?
Alors, c'est un problème pour l'Ukraine, mais c'est un problème aussi pour la Russie. Je pense que c'est vraiment symétrique dans les deux sens. Par exemple, quand on est dans une logique coloniale, et il n'est pas certain qu'on puisse appliquer le concept colonial à la Russie et à l'Ukraine, mais néanmoins, ça nous amène des enseignements. Être dans une situation coloniale est un problème pour le colonisateur, parce que ça influe sa vision du monde, et pour le colonisé, parce que ça le met dans une situation de domination. Et cette relation de Moscou à ses périphéries, elle s'est développée au cours des décennies, voire des siècles. Et il y a quelque chose qui s'est cristallisé aujourd'hui, qui paraît anachronique dans cette approche centre-périphérie, que partout ailleurs dans le monde, on est en train de remettre en question.
Après l'éclatement de l'URSS, chacun des deux pays s'est construit son propre récit et ils divergent. Mais Vladimir Poutine a nié ces différences pour, dites-vous, faire de l'histoire une arme politique et c'est particulièrement flagrant concernant la Seconde Guerre mondiale.
Alors je pense qu'on n'est pas uniquement dans du récit historique. On est vraiment également dans des réalités historiques différentes. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale vécue par un Ukrainien de l'Ouest ne ressemble pas à la Seconde Guerre mondiale vécue par un Russe d'une autre région de Russie. Donc il y a une complexité dans l'histoire en général, il y a une complexité douloureuse dans cette histoire de la guerre, parce que les choix à faire pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes, pour un habitant juif, pour tous ces habitants de cette zone européenne, étaient compliqués, difficiles. C'était une période de grande violence. Et c'est vrai que, je dirais, ça aurait pu donner lieu à un récit commun, un récit qui met en avant le choix difficile, la douleur, la complexité, les traumatismes, les massacres et la participation des civils pour des raisons diverses à ces massacres. Et ce n'est pas ça qui s'est passé. La Russie, en fait, a cherché à construire un récit extrêmement surplombant de la Deuxième Guerre mondiale, où elle était incontestablement du côté du bien. Et du côté du mal, eh bien, il y avait l'Ukraine.
Et l'Ukraine est décrite encore aujourd'hui comme un pays gangréné par le nazisme. Ça ne correspond pas à la réalité ni historique ni actuelle.
Alors, ça ne correspond pas à la réalité ni historique ni actuelle, mais ça ne correspond pas non plus au récit qu'a pu avoir la Russie, par exemple, dans les années 1990 ou même le début des années 2000. C'est-à-dire que dans ces années-là, on est encore en train d'écrire une histoire compliquée. On est encore en train d'ouvrir les portes de ce qui ont été fermées à l'époque soviétique. C'est en réalité la réappropriation de l'histoire par Vladimir Poutine.
Qui l'a instrumentalisé, manipulé.
Manipulé, instrumentalisé, transformé en arme de guerre. Et le martèlement assez récent au final de ce message d'une Ukraine peuplée par des néo-nazis descendants de ces nazis des temps anciens, c'est cela en réalité qui crée cette image au sein de la population russe. Ce n'est pas tant, hein, disons, une vision ancienne qui aurait été là, c'est vraiment une propagande étatique qui manipule les faits historiques.
Et je voudrais vous faire écouter le témoignage de Lucia. Elle a 82 ans, elle est née à Kiev à l'âge de 9 mois en 1941. Sa mère l'a emmenée en Sibérie pour fuir l'invasion nazie de l'Ukraine. On l'écoute tout de suite.
Je n'aurais jamais imaginé devoir revivre une telle situation jusqu'à ce que cette guerre éclate. Nous avons toujours aimé la Russie. Pour nous, les Russes sont des frères. Il y a tellement de familles mixtes. Mon mari était russe. Et cet idiot de Poutine, que quelqu'un l'étrangle et nous débarrasse de lui une fois pour toutes.
Alors jusqu'à cette guerre, hein, qui est encore en cours, mais qui a commencé dès 2014 avec le Donbass, puis l'annexion de la Crimée, jusqu'à cette guerre, l'idée selon laquelle les deux peuples étaient frères restait profondément ancrée, y compris chez les Ukrainiens, comme Lucia le dit.
Oui, bien évidemment, cette proximité qu'il y a entre les sociétés, eh bien, elle était réelle, notamment chez des générations plus âgées qui avaient été éduquées dans les mêmes écoles, avaient écouté les mêmes chansons à la radio, vu les mêmes films à la télévision, mangé les mêmes bonbons. Je dirais que quelque part, voilà, il y avait un socle commun extrêmement fort. Et c'est pour ça que dans mon livre, je mets un point d'interrogation à jamais frère. Je ne l'affirme pas, je le questionne. Mais en réalité, en fait, c'est sur cette guerre. Alors, cette fraternité était une fraternité inégale, et ça, je pense que...
Oui, il y a le dominant et le dominé.
Le grand frère et le petit frère, hein, et le petit frère doit se soumettre au grand frère, mais je dirais qu'au niveau des sociétés, l'intercompréhension était quand même réelle. En réalité, ce qui fait choc, c'est lorsque les Ukrainiens constatent que les Russes soutiennent les actions belliqueuses de leur État. En premier lieu, l'annexion de la Crimée.
Bien qu'elle se soit déroulée sans grande violence.
Oui, elle s'est déroulée sans grande violence, mais néanmoins, c'était une annexion d'un territoire appartenant à un autre État souverain par des hommes en armes. Hein, donc, quelque part, même s'il n'y a pas eu de morts, et heureusement à ce moment-là, la violence était dans le geste. Mais ce n'était pas tant la violence. En fait, la violence du Kremlin a été un choc, de cette décision du Kremlin d'annexer la Crimée. Mais ce qui a créé une fracture entre les deux populations, c'est lorsque les Ukrainiens ont constaté que les Russes qu'ils connaissaient, qui étaient leurs collègues, leurs amis, et les cousins qui habitaient de l'autre côté de la frontière, eh bien, en fait, soutenaient cette annexion. Et derrière cela, il y avait l'idée que la Crimée est un beau morceau de territoire, c'est quand même pas aux Ukrainiens de l'avoir.
Cette pépite, les Ukrainiens ne la méritent pas, écrivez-vous, selon les Russes.
C'est exactement ça. Et donc, cette idée d'infériorité, mais aussi de refus de la souveraineté de l'Ukraine, eh bien, a été une première sonnette d'alarme. Mais à cette première sonnette d'alarme, en fait, les Ukrainiens se sont dit « c'est la propagande ». C'est la propagande et on peut encore essayer de les convaincre. Et donc, ce n'est pas à ce moment-là que le dialogue s'est rompu.
Alors, la propagande, justement, elle joue un rôle crucial en Russie dans la compréhension qu'ont les Russes de ce conflit. Encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Russes sont victimes de la propagande ?
Alors, je pense qu'on ne peut pas tout limiter à la propagande. Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'ignorance des Russes sur l'Ukraine. Hein. Moi, je dis quelque chose dans mon livre qui est un peu voilà, une formule, mais que je pense fondamentalement juste. Pour les Russes, l'Ukraine est un pays imaginaire. La plupart d'entre eux n'y ont jamais mis les pieds. Vous voyez, 70% des Russes ne sont jamais sortis de leur pays. Et pour ceux qui sont loin, comme par exemple ces soldats hein, qui combattent en Ukraine aujourd'hui et qui viennent de régions éloignées, eh bien, je dirais que l'image de la télé est forcément véridique parce que ce pays, ils ne le connaissent pas. Ils le pensent semblable à la Russie et ça les empêche justement de s'interroger sur ce qu'il y a de différent.
Alors, une propagande qui est mise en œuvre aujourd'hui également dans les territoires conquis par les Russes en Ukraine. Et je voulais vous faire écouter Olena. Elle est originaire de Kherson. Elle a trouvé refuge à Odessa après l'arrivée des forces russes. Elle ne supportait plus justement la propagande de Moscou. Anastasia Bekio et Boris Vichit l'ont interrogée au mois de mai dernier.
La télévision russe nous raconte que nos autorités sont mauvaises, que Zelensky est un vendu. Les gens entendent ça tous les jours. Et même parmi ceux qui étaient pro-ukrainiens, certains subissent un lavage de cerveau. Mon fils, après avoir regardé la télévision, m'a demandé « Maman, c'est quoi un nazi ?» Il a 10 ans, il ne comprend pas ce qui se passe et il se demande pourquoi tout cela nous arrive alors qu'on vivait bien. Après ça, j'ai dit, on ne regarde plus la télévision. J'ai mis Netflix et on ne regarde que des films.
Alors la propagande russe dans les territoires conquis peut être finalement contre-productive pour Moscou.
Alors, c'est vrai que la Russie, et je pense, voilà, les idéologues du pouvoir russe pensent qu'en réalité, ils ont une capacité assez illimitée à manipuler les consciences et à faire passer un message pour véridique parce qu'on ne viendra pas les contredire. Il est vrai qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, je dirais, ils ont deux discours. Hein, ils ont le discours de la Russie, les Ukrainiens des territoires occupés, hein, ils ont le discours de la télévision, des médias, des pouvoirs de l'occupation qu'ils entendent. Et puis, ils ont le discours des bombes qui leur sont tombées dessus. Et donc, bien évidemment, le message ne porte pas. Alors après, en territoires occupés, vous voyez, les logiques de survie sont complexes. Hein, et parfois, voilà, on est amené à faire des choix là aussi difficiles. Mais globalement, les Ukrainiens réagissent quand même très différemment des Russes à ce battage informationnel.
Alors, dans l'histoire commune de ces deux peuples, il y a aussi la langue russe qui joue un rôle crucial. Tous les Ukrainiens comprennent le russe. Et jusqu'au déclenchement de l'invasion, cette langue était couramment parlée. D'ailleurs, même par le président Zelensky était russophone. Mais vous dites que ça ne signifiait pas une allégeance à la Russie.
Oui, ça fait partie des choses que nous ne comprenons pas très bien en réalité de cette zone géographique et notamment de l'Ukraine. C'est d'une part le fonctionnement du bilinguisme. Hein, on a l'impression que c'est un pays divisé alors que c'est un pays bilingue au sens où les deux maîtrisent les deux langues et il va y avoir une variation dans les usages. Mais aussi, en fait, langue et ethnie ne se superposent pas. Langue et allégeance politique ne se superposent pas. Et langue et région ne se superposent pas. En réalité, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est nuancé, compliqué. Et les Ukrainiens avaient un modus vivendi linguistique, un contrat linguistique qui était finalement assez fluide. Hein, on jonglait avec les deux langues en donnant de plus en plus de place à l'ukrainien, c'est vrai. L'ukrainien plutôt opprimé à l'époque soviétique, donc plutôt moins parlé lorsque l'Ukraine devient indépendante, et puis qui avait progressivement gagné du terrain par l'école, par les médias, par la culture. Mais la guerre, en fait, a transformé tout cela. Hein, depuis 2014, parler ukrainien est un acte de résistance. Et parler russe, eh bien, c'est parler la langue de l'ennemi.
Et à ce propos, écoutons le témoignage d'Alexander Kirienko. Il est engagé dans l'armée ukrainienne et il est parti faire la guerre dans une unité où tous les soldats parlaient ukrainien, alors que lui ne parlait que russe. Il a été interrogé le 10 août dernier par notre correspondant à Kiev, Stéphane Tchior.
En 4 mois, je me suis habitué à parler en ukrainien. J'avais une barrière psychologique, je n'arrivais pas à parler d'autres langues que celles que je connais. Mais les gars à l'armée m'ont dit « Vas-y, parle ukrainien, n'aie pas peur, si tu fais des fautes, on t'aidera ». Maintenant, dans mon cercle de connaissances, beaucoup sont passés à l'ukrainien. Avant, en tout cas avant 2014, à Odessa, on n'entendait pas la langue ukrainienne. Aujourd'hui, dans les circonstances qu'on connaît, beaucoup ont sauté le pas vers l'ukrainien.
Est-ce que les Russes, en Russie, comprennent pourquoi leur langue est aujourd'hui perçue comme un outil d'oppression ?
Alors, ça fait aussi partie de ces questions où les Russes, finalement, ont une vision extrêmement théorique de ce qui se passe dans leur périphérie. Les Russes ne comprennent pas l'ukrainien, ne le connaissent pas. La distance entre les deux langues est en fait assez grande. C'est à peu près la même distance lexicale qu'entre le français et le portugais. Donc, les langues sont proches, mais très différentes. Et puis, surtout, pour les Russes, en fait, la langue n'est pas politique. Mais en même temps, ils vont dire, eh bien, le russe, c'est la langue de la civilisation, de la grande culture. Ce qu'ils n'entendent pas derrière, c'est qu'ils sont en train de dire que l'ukrainien est la langue de l'arriération et de la petite culture. Donc, en fait, voilà, ce côté-là n'est pas compris. Mais aujourd'hui, en fait, l'Ukraine va rejeter en bloc toute domination de la Russie, y compris cette domination culturelle dont elle s'était accommodée en s'appropriant aussi les auteurs russes, russophones, en les intégrant comme étant partie de leur culture. Maintenant, c'est fini.
Et c'est irrémédiable ?
C'est difficile pour moi de répondre à cette question. J'aurais tendance à dire, mais sans, on parle peut-être en génération. Peut-être que ce que l'on peut dire, c'est à quelles conditions, en fait, il peut y avoir une reconstruction du commun. À mon sens, il ne peut y avoir une reconstruction du commun qu'à partir du moment où la population russe se rendra compte, en fait, peut-être pas dans son ensemble, mais au moins, voilà, une couche importante, se rendra compte de ce qu'elle a fait subir, non seulement dans cette guerre à l'Ukraine, mais de ce qu'elle a fait subir à ses périphéries en termes de violence, en termes d'oppression, mais aussi en termes de domination proprement culturelle, et qu'elle renonce, en fait, à ce statut de centre qui régit ses périphéries dans tous les domaines.
Vous parlez de la violence, et dans votre livre, vous évoquez l'empreinte de la violence sur cette société russe. Et ça aussi, c'est une différence entre l'Ukraine et la Russie, parce que l'Ukraine, c'est elle plus ou moins libérée de la violence de la société soviétique. C'est pas le cas de la Russie.
Alors, je pense que les deux sociétés, en fait, portent l'héritage de la violence des institutions totales soviétiques. Ça, bien évidemment, vous voyez, la prison ukrainienne va être aussi violente que la prison russe. Et au niveau des forces de l'ordre, jusqu'à il y a quelques années, on était à peu près sur le même niveau de violence. Mais il y a une différence, cependant. Il y a deux différences même. La première, c'est que la Russie a été très régulièrement en guerre et dans des guerres extrêmement meurtrières, sans justement régulation de la violence. Et
donc, en Tchétchénie, notamment
en Tchétchénie. Et les officiers qui dirigent aujourd'hui les opérations sur le front ukrainien sont des officiers qui sont passés par la Tchétchénie et qui transposent les pratiques violentes de cette guerre-là sur cette guerre-ci. Il y a cet élément-là. Et puis, il y a l'élément aussi de l'aspiration de la société ukrainienne. La société ukrainienne va se tourner aujourd'hui vers l'Europe et donc va quelque part se mettre des freins et considérer qu'il y a un certain nombre de principes qu'elle n'arrive pas forcément à atteindre, mais qui sont son objectif, comme la question du respect des droits humains.
Oui, car l'image de l'Ukraine sur la scène internationale est importante pour Kiev. Vous écrivez vers la fin de votre ouvrage qu'au fond, personne n'a autant fait pour le nationalisme ukrainien que Vladimir Poutine. Il a voulu quelque chose, il obtient exactement le contraire.
C'est assez paradoxal, en effet. Alors, c'est vrai que je le dis avec une certaine ironie, que voilà, Vladimir Poutine a beaucoup contribué à consolider la nation ukrainienne, sans dire derrière qu'elle n'existait pas. Bien évidemment qu'elle existait, mais c'est vrai que cette unité, en fait, du peuple ukrainien que l'on voit aujourd'hui, qui est assez spectaculaire, eh bien, quelque part, voilà, c'est les actions belliqueuses de Vladimir Poutine qui sont à l'origine.
Et juste avant de conclure, je voudrais vous faire écouter Mikhailaï Sergeyevitch, un message de cet Ukrainien aux Russes. Il a été recueilli dans un village tout juste libéré par les forces ukrainiennes.
Rentrez chez vous, quittez notre terre. Nous resterons forts et nous ne donnerons pas l'Ukraine à la Russie. Je ne sais pas si la guerre finira, ni si nos peuples pourront un jour être amis.
Voilà, je crois que ça conclut assez bien notre émission. Anna Colin-Lebedev, merci. Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, et c'est paru au Seuil.